De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous, avec un grand plaisir, on accueille Francine Payette, qui est associée à l'émission Génie en herbe. Il faut dire que cette émission a tenu l'antenne de Radio-Canada pendant près de 25 ans. Il y a eu plusieurs animateurs. Le premier, Serge Arsenault. Ensuite, est-ce que je vais vous en poser une question? Quel a été le second animateur?
Est-ce que c'est François Cardinal? François Cardinal était le réalisateur, je pense.
Hein? Pierre McNichol, d'Ottawa. Bon, oui. Suivi de...
Michel Benoît, je ne sais pas.
Non, avant Michel, il y en a eu un autre.
Vraiment?
Marc Filion.
Oui,
Marc Filion de 75 à 82.
Bon.
Et alors... Michel Benoît est arrivé en 82 jusqu'en 1989.
Alors, c'est avec lui que j'ai travaillé, pas quotidiennement, mais chaque semaine.
Avec Michel Benoît.
Avec Michel Benoît.
En 89-90, c'est suivi de l'animation de Claude Deschênes, qui était accompagné d'Hélène Lauzon. Et de 90 à 97, pour la dernière portion, Martin Gélina animait ce quiz. Comme je le disais précédemment, en 2011, l'émission réapparaît le temps d'une saison sur les ondes de Radio-Canada sous le nom de Génie en herbe, l'aventure, animé alors par Stéphane Bureau. Mais ça n'a duré qu'une seule saison. C'est malheureux que ce soit retiré des ondes.
Peut-être que la formule ne convient plus aux gens de téléspectateurs, mais dans les écoles, ça continue, là, puis ça serait... En tout cas,
Qu'est-ce que vous retenez de tous ceux que vous avez pu voir passer cette émission?
Oh mon Dieu, c'était toujours un émerveillement de les voir. Et moi, j'ai passé une partie de ma vie avec des jeunes de 16 ans, donc c'est toujours de les voir en situation de... Quand ils se sont préparés puis qu'ils arrivent avec le goût de montrer ce qu'ils savent, là, c'est formidable.
Ce qui était extraordinaire, quand on a fait l'émission célébrant le 10e anniversaire, nous, on se retrouvait, autrefois étudiants, maintenant, avec une carrière qui commençait à peine. Mais on avait tous des profils qui nous faisaient croire que, finalement, on avait été chanceux parce qu'on avait... de bons emplois. On travaillait beaucoup dans des domaines qui nous étaient prêts les uns des autres. Me souviens, dans la mesure où je me souvenais des conversations qu'on pouvait avoir quand on était jeune, on se disait « Ah, moi, plus tard, j'aimerais devenir. » Et un très grand nombre sont devenus, effectivement, ce qu'ils souhaitaient être à cette époque.
C'est sûr que ça faisait... C'est un profil un peu particulier. Moi, ce que j'observais, là, c'est que c'était des jeunes qui avaient de multiples talents. Parce que c'est pas... quand ils étaient dans Génie en herbe, souvent, ils faisaient du violon, ils faisaient du piano, ils étaient dans l'équipe de théâtre. C'est des gens qui étaient d'une grande, grande curiosité et puis aussi d'une discipline de travail remarquable.
Mais ce qui était formidable dans tout ça, c'est qu'on favorisait finalement la recherche de l'excellence.
C'était un jeu. Alors, la force de cette affaire-là, c'est que c'était un jeu. Donc, ils entraient là-dedans avec ils avaient à se mesurer à d'autres. Et dans nos écoles, sur l'heure du midi, il y avait toutes sortes d'événements où ils jouaient.
Ils voulaient gagner,
mais c'était un jeu au même titre que d'autres. Il y en a qui vont jouer au ballon, mais eux, ils venaient se faire de la compétition.
Et chacun, on avait à peu près notre ligne de force, si
Absolument.
J'ose dire.
Les équipes étaient complémentaires, oui.
Moi, je me souviens que dans mon équipe en 73, j'ai oublié le nom de cette collègue, mais c'était une experte dans le domaine des arts visuels. Et lorsqu'on montrait à l'écran une peinture, elle pouvait tout de suite dire c'est Van Gogh, c'est Renoir, etc. Il y en avait d'autres pour qui c'était peut-être la langue française, les difficultés de la grammaire. Moi, je me souviens de Pierre Feller, qui est aujourd'hui directeur de l'hôpital du Sacré-Cœur, qui décidait à ce moment-là de dire « Ben, moi, j'aimerais bien faire ma médecine », ce qu'il a fait. Mais on avait, nous, tous les deux, un intérêt particulier pour le domaine des sciences et aussi un peu, je dirais, pour tout ce qui avait trait à la conquête spatiale. À l'époque, il faut se dire qu'on était encore dans la conquête de la Lune.
Moi, je me souviens qu'on était en studio, on enregistrait une émission en janvier 86 quand la navette a explosé dans l'espace. Parce que je me souviens, j'étais dans la salle de nouvelles à ce moment-là, puis on était sidérés. Donc, c'est vrai que c'était l'époque de la conquête.
Alors, puisqu'on parle d'espace, pourquoi ne pas parler du ciel qui se marie avec la mer?
Ah, Blanchet.
Interprété par...
Lucile Dumont.
le ciel bleu, son œil est blanc. Elle a voulu être coquette pour dire au ciel en s'éveillant. N'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Les pieds dans les sables des dunes, je les ai vus qui s'embrassaient à l'ombre des joncs, des lagunes, et puis la mer qui lui disait : N'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons.
Ça, c'est vraiment un coup de cœur pour vous, cette chanson.
Ah, oh, elle est magnifique. Puis, c'est une époque où la télévision faisait beaucoup de place à la musique, à la chanson. Et puis, ça c'était, si je me souviens bien, ça s'appelait le concours de la chanson canadienne, je pense. Et ça a été très révélateur parce que je me souviens d'être installée devant la télévision familiale. Là. Et puis, c'était des interprètes, de grands interprètes qui nous apportaient des chansons nouvelles parce que c'était des textes qui était fait ici, là.
Et si vous avez bonne mémoire, Jacques Blanchet s'est retrouvé un peu dans le rôle que vous jouiez peut-être à Gilles en herbe, comme juge à l'émission Découverte.
Ben non, je me souviens pas.
Avec Yolande Guérard, à l'antenne de ce que l'on appelait à l'époque le fameux Canal 10,
oui.
L'ancêtre de TVA. C'est une émission qui avait lieu toutes les semaines, où différents chanteurs, chanteuses venaient se commettre. Et Jacques Blanchet était... très mal perçu par le public parce qu'il était très, très, très sévère. alors que Yolande Guérard était plus emballant. Je vous mentionne quelques noms qui ont été découverts dans le cadre de cette émission. Shirley Theroux,
Ah bon?
Claude Steben. Il y a eu aussi Christine Chartrand. Alors,
c'est pas les moindres.
C'est pas les moindres. Oui. Alors, c'est une émission qui a connu un certain succès dans les années 60. Comme quoi, le fait de vouloir jouer a toujours existé d'une certaine façon.
C'est ça. Puis là, ça évoque pour moi le petit café. Il y avait Normand.
Avec Dominique Michel.
Il y avait Normand Hudon, Pierre Thériault.
Oui.
Alors, on a découvert la caricature. Normand Hudon qui nous faisait des caricatures sur place. Et c'était comme le génie qui s'exprimait, là. Pour tout le monde, c'était très convivial, les émissions, mais tu avais accès à... Ben, moi, je trouve que c'était notre identité, là. On se reconnaissait.
C'était du direct,
ça venait
plus
de chez nous. Oui. C'était une très belle époque.
Mais vous parlez du petit café qui a peut-être été probablement l'ancêtre des fameux bye-bye.
C'est bien
parce
possible.
Parce qu'on faisait des sketchs.
Oui, oui,
On se moquait un peu de l'actualité.
Oui.
Alors, on est au...
Et puis la langue, la qualité de la langue.
Exact.
Je me souviens de Pierre Thériault qui était dans cette émission-là. Et la sorte d'humour, en tout cas, c'est de beaux souvenirs.
On enchaîne avec une chanson magnifique que vous nous proposez, celle de Louise Forestier.
Oh, que c'est beau ça, c'est triste.
La dame en noir.
Oui.
Je mettrai aux fenêtres et aux carreaux des portes des péridons de toile et je ferai en sorte que la maison se fige en un profond silence.
Pour éponger
Sur la dame en noir, Mme Payette?
La dame en noir, pour moi, ça correspond à 1990. Nelligan est mise en... Le livret est fait par Michel Tremblay et puis la musique par André Gagnon. Et c'est à la Place des Arts. Et je me souviens encore de l'émotion que j'ai éprouvée à ce spectacle-là. C'était un spectacle. Tous les interprètes, il y avait Jim Corcoran qui était là-dedans. Il y avait, comment s'appelle-t-il, celui qui jouait Nelligan? C'est un homme, un acteur qu'on voit actuellement. Là, c'est dommage que j'oublie son nom. Ce qu'il s'appelle Soulière, c'est Monsieur Soulière.
Oui.
Or, quelle belle voix, puis sa prestance. Il y avait René Claude qui faisait l'air de l'indifférence, là. Et ça, c'est un spectacle extraordinaire. Je sais pas pourquoi c'est pas représenté, là. Puis le dispositif scénique, je m'en souviens encore, c'était évocateur. C'était plus que... ça commençait, là, où on enlevait les décors puis on faisait des projections lumineuses, mais c'était... Oh, c'était vraiment très bon. Très beau spectacle. Puis Louise Forestier, évidemment, dans cette chanson-là de la mère, là, éplorée, qui voit que son fils est en train de sombrer puis qu'il peut rien faire. C'est une chanteuse fantastique.
Demeurons dans le domaine des arts de la scène parce que vous nous proposez aussi une pièce qu'on n'entend pas très souvent et qui pourtant a connu un certain succès au début du 20e siècle.
Oui.
Les cloches de Corneville.
Ben oui, pour moi, c'est que je dois avoir 7 ans à l'époque, puis une de mes tantes filles, c'était ma fête, elle m'avait acheté des gants et un chapeau en angora. Ça, là, écoutez, c'était quand même merveilleux. Et puis, elle m'amène voir un spectacle. J'ai jamais vu, moi, de spectacle chanté avec des comédiens adultes et des costumes, et j'entends ça. J'entends encore l'air tellement j'avais trouvé ça beau.
Le compositeur de cette opérette, Les cloches de Corneville...
Planquette.
Oui, alors, il en a écrit plusieurs,
ah oui.
Mais semble-t-il que Les cloches de Corneville, c'est probablement peut-être pas la seule, mais parmi les opérettes qu'il a composées, celle qui a connu le plus grand succès.
Oui. Je me prononcerai pas maintenant, tu sais, comme musicienne sur la qualité, mais moi, pour moi, c'est un souvenir impérissable.
Alors, on écoute de cela, l'ouverture, et c'est interprété par l'Orchestre symphonique d'Harmonie sous la direction d'Evgenie Billiard. c'est toute une époque que Mme Payette, Francine de son prénom, nous fait revivre avec les cloches de Corneville qu'on vient d'entendre. Parce que l'opérette a connu un certain succès ici.
Ouais.
On se souvient du théâtre.
Le trio lyrique.
Le trio lyrique.
Charles Daudet, Charles...
Daudet. Mais vous avez raison.
Je pense que c'est Daudet.
Oui, exact. Il y avait le théâtre, j'allais dire, Arcade.
Oui.
Où il y a eu beaucoup... Il y a eu, bien sûr... de la comédie, du burlesque.
Il y avait de l'opérette.
Mais il y avait de l'opérette
aussi.
Il y
avait une chanteuse qui s'appelait Claire Gagné, qui avait une voix magnifique.
Formidable.
Magnifique, oui.
Formidable. C'est toute une époque. L'époque de l'arrivée de la télévision aussi, ça a été marquant.
Quelle affaire. Moi, mon père pompier vivait dans la caserne plusieurs heures par semaine. Et puis, il y avait un poste de télévision. On est peut-être en 52, 53. Ça commence. Et alors, quand il revient à la maison, il nous parle de ça. Nous, à la télévision, là, on n'a pas ça encore. Et lui, il commence à regarder La Famille Plouffe. Et là, il revient à la maison, puis il dit à ma mère, ça se peut pas que les enfants voient pas ça. Alors, mon frère et moi, qui étions peut-être 12 ans, 10 ans, il nous amène au snack bar sur la rue Mont-Royal. Puis là, ben, pour s'asseoir sur le petit tabouret, il fallait manger. Alors, il nous achetait un sundae. Puis, on avait le droit de regarder sur le téléviseur du snack bar La Famille Plouffe. Écoutez, là, il a acheté un téléviseur, je pense, 2 mois après. Mais on a vu plusieurs épisodes de La Famille Plouffe.
Mes sœurs aînées faisaient la même chose.
Oui.
Et elles allaient regarder au coin de la rue parce qu'il y avait là un magasin qui vendait des télévisions. Et le soir de La Famille Plouffe, ils laissaient les téléviseurs
dans
allumés.
La vitrine.
Dans la vitrine.
Toute une époque.
Madame Payette, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir cette semaine. Mais comme vous voyez, le temps passe vite en votre compagnie. On a tellement de choses à se dire. On va vous inviter à nous revenir la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée par le charmant Pierre de Gagné, qui est toujours présent derrière la console. Armand Dubois, l'animation et la réalisation. Et on va se quitter avec justement le thème de La Famille Plouffe. Le vrai titre de cette musique, c'est Alpine Pasture, et ça a été composé par un monsieur Ellis.
Si vous me permettez, j'entends Yves Letourneau qui annonce les Players.
Bonne semaine.
Merci.